Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. Dans cet épisode, on va vous parler de Björk Guðmundsdóttir, notre islandaise préférée. Björk est un ovni avec des couettes, des jupettes et des soquettes. Elle mélange l'avant-garde avec la pop et n'en fait qu'à sa tête. En 1997, un troisième album va constituer un tournant radical dans sa carrière, qui la fera passer du spectaculaire au film d'auteur. C'est Homogénique, un disque introspectif marqué par des arrangements de cordes atmosphériques et des gros beats électroniques. Il contient quelques-uns de ses plus grands titres, comme Yoga, All Is Full of Love et bien sûr Bachelorette. C'est un disque incontournable qui va donner naissance à une toute nouvelle grammaire islandaise et inscrire durablement l'Islande dans les charts. Homogénique, on en parle tout de suite maintenant avec le cassette crew, Fanny, Grégoire et Olivia.
Hello tout le monde.
Salut.
Alors Olivia, tu vas nous raconter quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler de volcans islandais et de colis piégés.
Alors pour cet épisode, Grégoire, où est-ce que tu vas nous emmener?
Alors moi je vous emmène en Espagne pour l'enregistrement de cet album typiquement islandais, c'est à n'y rien comprendre, mais vous allez voir, tout va s'éclairer un peu plus tard.
Et on retrouvera tout à l'heure Fanny en fin d'émission.
Moi, je vous raconterai comment Björk s'est transformée en guerrière de l'amour.
Oh, 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 parfait. Alors, accrochez-vous, on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious. C'est parti. Waouh, voilà pour les 10 titres de Homogénique. En tout cas, pour la version que je tiens entre les mains, parce que nos amis espagnols, eux, ils ont un titre en plus. Et comme d'hab, les Japonais peuvent se la raconter, puisqu'ils ont carrément 16 titres sur la tracklist.
Oh là là, mais les Japonais, ils ont toujours plein de morceaux plus que les autres. Pourquoi?
Bah ouais, c'est pas juste, je sais pas.
C'est trop nul.
La vie est mieux au Japon.
Ouais, c'est ça.
Il sort cet album à la rentrée des classes le 22 septembre 1997 en compact disque, en cassette vinyle et mini disque sur le label anglais One Little Indian. Alors, 1997, c'est une année assez marquante musicalement, parce qu'il y a le Fat of the Land de Prodigy, il y a OK Computer de Radiohead, et bien sûr, Partir un jour, le premier album des To Be Free.
Enfin, une vraie référence dans cette émission.
Le reste, je ne connaissais pas.
Au cinéma, on retrouve à l'affiche Roméo et Juliette, le cinquième élément, et le premier opus de la trilogie Scream. Alors 1997, c'est aussi l'assassinat de Notorious B.I.G. et c'est les débuts du tremplin Graine de Star sur M6.
N'y voyez pas de lien de cause à effet.
On ne sait pas.
Si, peut-être juste.
Moi, en septembre 97, je rentre à ce moment-là en cinquième.
Alors, cool, Manu. Merci. On va... D'autres choses à nous raconter ou pas sur cette année 97?
J'ai plein de choses à vous raconter. Alors, on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir, Björk? On va commencer par toi, Olivia.
Alors, écoute, moi, j'ai pas de souvenir précis de Björk. Je me souviens pas exactement quand j'ai commencé à écouter Björk. Je pense pas que c'était en 97. J'étais un poil jeune. Je sais juste qu'à l'époque, je la trouvais extrêmement bizarre. Bon, je pense que c'était le marketing qui voulait ça.
Bienvenue au club.
Je la trouvais super, super chelou, un peu fascinante, mais en même temps un peu trop chelou pour moi. Et je me souviens d'un truc très, très bizarre. Je sais pas pourquoi je m'en souviens, mais admettons. Je me souviens d'une interview où elle dit que depuis très jeune, elle se masturbe 3 fois par jour.
Ah ouais ?
Et ça m'avait vachement choqué jusqu'à ce que je me rende compte que tous les garçons faisaient ça à cet âge-là, en fait. Je m'étais pas rendu compte.
Mais... Alors, je sais pas si tous réellement le faisait 3 fois par jour, je sais pas, Grégoire, tu dis.
Ah bah, si, quand même.
Ok, Fanny.
Moi, j'ai pas énormément de souvenirs non plus parce que il faut savoir qu'à la base, je n'aime pas Björk. Donc, j'ai une sorte de rejet de son travail. Enfin, on reviendra dessus plus tard. Un souvenir que j'ai quand même en 97, enfin non, un petit peu après 97, c'est la sortie de Dancer in the Dark. Je me rappelle que mon père était allé le voir au ciné et il était revenu en ayant quitté la salle tellement c'était merdique. Et je me rappelle de cette bande-annonce avec ses... qui était vraiment trop bizarre, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est toujours un ovni auquel j'ai eu du mal à accrocher. Mais un souvenir très cool lié à Björk, c'est pour l'anniversaire d'un de nos amis communs qui s'appelle Thomas. Mmh. On a enregistré un clip dans lequel toi et moi, on joue Manu. C'est un remake du clip de It's Oh So Quiet.
Elle m'a piqué mon anecdote, je suis vénère.
On faisait la chorégraphie et ça, c'est un très très bon souvenir. Mais tu peux compléter du coup l'anecdote.
Eh ben, c'est vrai, effectivement, on s'était échangé une robe. Moi, j'avais une très jolie petite robe jaune avec une perruque
brune. Voir ça.
Oui, mais ce sera pas possible.
réseaux, là.
On s'était bien marré, on avait refait le clip de It's All So Quiet.
Avec la chorégraphie de malade.
Ah ouais. Bon, c'était pas le level de Spike Jonze, mais quand même. C'était un beau résultat, quoi. Voilà.
C'est là que je me suis rendu compte que j'ai aucune coordination et les chorégraphies, c'est la catastrophe.
On veut la vidéo. Hein,
Greg, dis-nous que t'as des meilleurs souvenirs que nous avec Björk.
Ouais, moi j'ai un souvenir précis. Pour le coup, c'était en 97 et c'était la découverte du clip de Yoga, tout simplement. Et je me souviens que j'étais complètement sidéré par ce que je voyais. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et
parce que c'était quoi ce clip ?
Tu sais, c'est un clip, si vous vous souvenez pas, avec des vues aériennes de l'Islande. Et puis, il y a des mouvements de caméra un peu chelous. Puis ensuite, on rentre dans la Terre s'ouvre.
Ouais,
et il y a des
plaques tectoniques,
et y a des
qui
plaques tectoniques
ouais.
Et tout. C'est la force des éléments. Enfin, c'est ce dont parle Homogénique. On en parlera un peu plus tard. Et je me souviens d'avoir été complètement fasciné et hyper ému par la musique aussi, par les cordes, d'être... ça m'avait plongé dans un état d'hypersensibilité, en fait, quand je tombais sur ce morceau. Et voilà, c'était une belle découverte, ouais.
Yes.
Voilà.
C'est super, c'est plutôt des bons souvenirs. Alors, revenons maintenant sur l'histoire de Björk. Comment est-ce qu'on devient une artiste aussi reconnue mondialement quand on vient d'Islande ? Comment on fait, Olivia ?
Eh bien, très bonne question. Donc, Björk, de son vrai nom, Björk Gudmundsdóttir.
Björk.
Alors, déjà...
On avait dit qu'on faisait pas d'accent.
Ah merde, vous savez que c'est mon truc, les accents.
Je pense que cet épisode, ça va être un petit peu le défi guttural. Hein. On va déjà, d'ores et déjà, présenter toutes nos excuses à nos amis islandais, particulièrement ma voisine, qui est islandaise, et je l'espère n'écoutera pas cet épisode. Donc, Björk grandit en Islande, dans une communauté hippie. Dès l'âge de 5 ans, sa mère l'inscrit dans une école de musique où elle apprend le piano et la flûte. Björk enregistre, figure-toi, son premier album à l'âge de 11 ans avec l'aide de son oncle durant l'été 77. L'album, simplement intitulé Björk, est tiré à 5000 exemplaires et devient disque d'or en Islande. Je vous propose d'écouter Alfur Ut Ur Hol, reprise de Fool on the Hill des Beatles. C'est sympa, hein? Elle a une petite voix toute
bien.
Fraîche.
Moi, j'aime bien.
C'est assez mignon, ouais, j'avoue.
Ouais,
trop mignon. Mais ça vaut pas Britney Spears au même âge, hein? Excusez-moi.
L'adolescence de Björk est marquée par une succession de groupes locaux. On retiendra principalement Tapi Tikaras, ce qui signifie tout simplement « botte le cul des putes ». J'adore. Ou « Spit and the snot », où l'on peut la voir les sourcils complètement rasés. Donc déjà, un look bien, bien défini. Hein.
Bien, bien punk, ouais.
Voilà. En 87, elle fonde Skurmolarnir. Repéré par un label anglais, One Little Indian, le groupe sera finalement renommé The Sugar Cubes. Je me demande pourquoi d'ailleurs ils l'ont renommé. Et va vite devenir le groupe islandais le plus célèbre du monde à l'époque. Ce petit groupe de punk artistes et poètes va devenir populaire partout en Europe et aux USA. En France, le mensuel Rock Best dira que, je cite, « le rock fait souffler une incomparable fraîcheur d'alcool de menthe sur nos sens blasés par la monotonie d'une production techno uniforme et sans surprise ».
Waouh, ok, vous avez deux heures.
Le groupe finit par se séparer en plein succès en 92, lassé par la pression médiatique.
Alors, on est donc en 93 et c'est le début de Björk, elle commence sa carrière solo.
Tout à fait, elle part s'installer à Londres pour y enregistrer son premier album, Debut. À partir de là, les albums se suivent et surtout ne se ressemblent pas. Il y aura Post en 95 qui rencontre un succès considérable, notamment grâce à la reprise du titre de Betty Hutton, It's Oh So Quiet, que l'on a tous en tête, mais pour le plaisir, on va se réécouter un petit extrait. It's oh so quiet. It's oh so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until. About a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then shh, shh, it's nice and quiet shh, shh, but soon again shh, shh, start another big riot. You blow a fuse, sing boom, the demo cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow, bam! Of falling in love. Cette chanson-là, moi, j'aime bien.
Ouais, elle est très cool.
Moi, je me revois encore avec ma petite robe. Non, c'était...
Ça t'a plu ? Tu veux qu'on en parle un petit
Beaucoup
peu ?
Beaucoup de souvenirs. Non, je crois qu'on en a dit assez.
Donc, en 97, c'est homogénique. Si on aimait la facilité, on dirait qu'il s'agit de l'album de la maturité. En tout cas, c'est sûr, c'est un tournant dans sa carrière. L'image renvoyée par cet album est très différente de celle des précédents. Si Début montrait une jeune fille timide, Post dévoilait une adolescente pop et excentrique, Homogénique montre une femme qui assume ses contradictions et renoue avec ses origines. on y retrouve cette dualité sentimentale qui existait déjà dans Post entre amour et colère. Cette dualité se veut aussi évocatrice des paysages de l'Islande. En tout cas, c'est ce qu'on ressent en écoutant Yoga, composé d'une douce mélodie jouée au violon à laquelle s'ajoutent des beats lourds et violents. That no one sees, you see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel. D'ailleurs, Björk dit que pour Homogenic, elle n'a gardé que trois bruits essentiels, les trois bruits qui existent depuis la nuit des temps, la respiration, le cœur qui bat et les nerfs qui frémissent. Et puis, un événement va venir bousculer radicalement la préparation de ce disque. Greg nous en parlera plus tard, mais Björk commence à travailler sur cet album chez elle, à Londres.
Donc c'est un événement qui va se passer juste devant sa porte.
Au sens propre du terme, mais malheureusement c'est quand même assez tragique. Le 12 septembre 1996, Ricardo Lopez, un fan fou, envoie un colis piégé d'acide sulfurique chez elle à Londres, puis rentre chez lui et se suicide. Le paquet est heureusement intercepté par la police avant d'exploser. Ricardo Lopez laisse un film qu'il a réalisé lors du processus de création de la bombe. Les 18 premières heures de la vidéo expose son obsession pour Björk, la construction du dispositif, ses idées sur l'amour et d'autres sujets.
C'est atroce,
horrible.
Ce truc-là.
C'est hallucinant. Enfin,
hyper choquant.
Et évidemment, Björk va réagir très très fortement à cet événement. Elle va être bouleversée. Et dans les rares commentaires publics qu'elle a pu donner sur cet événement, elle dira que ce fut une épreuve très difficile qui a complètement bouleversé sa vie. Selon elle, cela explique son départ de Londres et surtout son besoin de rejeter son image de fille mignonne. Elle commence à écrire de façon plus personnelle et pour cela, elle part s'installer en Espagne où elle va enregistrer la suite d'Homogenic. Lorsque paraît l'album en 97, en septembre, Björk atteint une notoriété bien plus importante que celle avec son groupe The Sugar Cubes. La critique voit en Homogenic un album important et surprenant, un tournant dans la carrière de la chanteuse. Lui reconnaissant une certaine audace, une véritable intensité dramatique. Sa sincérité et sa cohérence musicale sont saluées. Certains, en revanche, sont totalement déstabilisés et même déçus. Jusque la reine des dance floors, avec Homogenic, elle prend un tournant plus spirituel. Certains critiques soulignent le manque de mélodies accessibles et de tubes potentiels et se demandent s'il ne s'agit pas du disque qui marquera la rupture de Björk avec son public. Bon, ben, je pense qu'ils se sont un petit peu plantés, ceux-là, hein, parce que pour beaucoup de fans, aujourd'hui encore, Homogenic reste l'un de ses meilleurs albums et elle va en vendre plus de 5 millions d'exemplaires. C'est aussi l'album qui va marquer le début de l'histoire d'amour entre Björk et la France. Homogenic va lui donner un statut de chanteuse branchée, arty et un peu underground. Le disque reçoit un accueil public qui dépasse le succès des deux précédents albums. Les singles Yoga et surtout Bachelorette, tous deux portés par les clips de Michel Gondry, font rapidement partie des morceaux de Björk les plus diffusés en radio. Bachelorette reste d'ailleurs son single le plus vendu chez nous.
Et d'ailleurs, c'est aussi l'album Homogenic, celui qui a été le plus vendu en France.
Absolument. Et pour finir, je veux bien qu'on s'écoute un court extrait de son interview dans Nulle part ailleurs. Alors, c'est assez symptomatique de ce qu'on évoquait au début de cet épisode. Ils la prennent vraiment pour une tarée, quoi. C'est assez triste, je trouve.
Mais Nulle part ailleurs, quand on passe des extraits, ils sont souvent gratinés, hein, les deux.
C'est sûr.
Les deux présentateurs.
Allez, c'est parti.
Merci d'accueillir une star, Björk. Ouais.
bon, ça va, bien, merci, merci. C'est pas ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on disait qu'il y a cet album qui s'appelle Homogénique, qui cartonne actuellement partout, et en France y compris. Et on a réfléchi un peu à ce que vous représentez dans la musique. On se dit que vous êtes quelqu'un de très singulier. Ça va de votre physique à votre musique, en passant par votre voix, vos looks, qui sont toujours très à la mode. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que vous êtes quelqu'un d'aussi original que ça?
Well, when I was three,
à 3 ans,
I found a box.
J'ai trouvé un livre.
Between my grandmother's tits.
Entre ma grand-mère, Stets.
And I opened it.
J'ai trouvé ce livre, je l'ai ouvert.
And found this dark, hairy, wet.
Et j'ai trouvé
stuff.
Quelque chose qui était noir et sombre et velu.
It.
Et je l'ai mangé.
Et qu'est-ce que c'était?
I don't know. She
Je n'en sais rien. C'était un morceau, en fait. Un simple morceau, et je l'ai mangé en entier parce que j'avais très faim et j'étais très gourmande.
C'est un gag, donc...
Je voudrais quand même signaler que la traductrice est vraiment nulle.
Mais
sur
ouais,
le coup.
C'est n'importe quoi.
Elle dit n'importe quoi. Björk dit qu'elle a trouvé une boîte entre les seins de sa grand-mère et la traductrice dit qu'elle parle d'un livre sur sa grand-mère.
Sa grand-mère qui s'appelle Tits. Non, les seins de sa grand-mère, meuf.
C'est la catastrophe. Cette interview est horrible.
Ils sont assez gratinés, les deux, quoi. Alors, on va parler maintenant de la naissance de cet album.
Tout à fait.
Greg, toi, comme d'hab, tu t'es intéressé à la création de l'album avec des sonorités, ben, du coup, bien islandaises, mais enregistrées dans le sud de l'Espagne.
Eh oui, c'est l'une des bizarreries de cet album, dans lequel Björk voulait en effet retranscrire la beauté et l'âpreté de son île natale. À l'origine, l'enregistrement devait se faire à Londres, où Björk vit à cette époque, sauf que l'épisode de cet attentat à la bombe n'est pas vraiment propice au calme et à la concentration. Les tabloïds et les paparazzis ne cessent de la traquer, et la jeune femme veut alors prendre ses distances avec cette attention médiatique. Et ça tombe bien, l'un de ses collaborateurs, le batteur vétéran Trevor Moray, lui propose d'aller enregistrer au calme dans sa splendide villa du sud de l'Espagne, perchée sur des collines verdoyantes avec vue sur la mer, à 2 pas des côtes africaines, un studio maison connu sous le nom d'El Cortijo Studios. Merci pour l'accent.
Oui.
Ouais. Non, c'est très très beau, hein. Allez voir des images, chouette endroit pour enregistrer, c'est assez incroyable. Il y a une piscine aussi, si vous voulez la louer. Sur place, Björk prend 1 heure tous les matins pour aller se promener sur la plage. Le reste de la journée, elle bidouille avec tout le matériel qu'elle a fait venir de l'endroit.
Alors d'ailleurs, Björk, elle va signer la totalité des compositions de l'album. Et malgré tout, en studio, c'est un travail d'équipe avec non pas un producteur, mais plusieurs.
Oui, c'est l'une des spécificités d'Homogénique. Björk renonce à faire appel à Nelly Hooper, qui a produit ses 2 premiers opus. Selon la chanteuse, elles ont fini de se surprendre l'une et l'autre. Björk va donc s'entourer d'anciens collaborateurs avec qui elle a aimé travailler. Ils s'appellent Marcus Draves, Guy Sigworth ou encore Howie Bernstein, dit Howie B, et surtout Mark Bell, du groupe culte de musique électro venu de Sheffield, LFO, qu'elle cite souvent comme une influence majeure, au même titre que Stockhausen, Kraftwerk ou encore Brian Eno. Et le saviez-vous, mais un groupe mythique de hip-hop aurait pu collaborer à Homogénique. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est?
Alliance Ethnique.
Les Nègres Marrons.
Non.
Merde.
Je vous le donne en 1000, il s'agit du Wu-Tang Clan.
C'est un peu mieux.
Ouais. Björk est archi fan, mais bon, problème d'agenda, ils n'ont pas pu venir en Espagne. Björk finira par aller les voir à New York, période pendant laquelle ils vont écrire quelques morceaux ensemble. Voilà, fin de la parenthèse, mais donc on aurait pu avoir un featuring avec Wu-Tang Clan. J'ai du mal à voir là le... Je crois qu'elle a reconnu que finalement, à l'époque, ils n'étaient pas vraiment sur le
même
délire. Et que finalement, c'est pas plus mal si ça s'est pas fait. Alors même si le Wu-Tang n'est pas là, vous l'avez compris, Björk s'entoure de sa famille musicale, en quelque sorte, des pionniers de l'électro et du trip-hop, qui vont travailler sur la texture des rythmes volcaniques d'Homogénique. Björk en parle dans un documentaire consacré à l'album. Écoutez, et c'est Fanny qui nous fait la trad.
I made a conscious choice that the beats for this album will be very simple, almost naive.
J'ai fait le choix conscient de créer pour cet album des rythmes très simples,
very natural,
presque naïfs, mais aussi très naturels et explosifs, comme s'ils étaient en train d'être créés, ce qui pour moi représente bien l'Islande. Pour cet album, nous avons constitué une bibliothèque de sons et de bruits pendant presque un an. Je suis toujours frappée quand les gens disent que la musique électro n'a pas d'âme. Ils s'en prennent à l'ordinateur en disant « Tu n'as pas d'âme ». Mais s'il n'y a pas d'âme dans une musique, c'est que le musicien n'en a pas mis. L'outil, lui, il n'y est pour rien.
C'est très sage. Très sage ce qu'elle dit. Alors, en dehors de ces rythmes électro qui naviguent entre trip-hop et avant-garde, il y a aussi beaucoup de cordes dans cet album homogénique.
Oui, en fait, Björk voulait trois éléments dans cet album. La voix, des beats électro et des arrangements de cordes hyper romantiques et dramatiques. Le tout est censé traduire la beauté des paysages islandais et la puissance des forces telluriques qui animent ce territoire sauvage. D'ailleurs, pour les parties cordes, Björk a fait appel à un ensemble islandais, The Icelandic String Octet. Je vous propose d'entendre ici un extrait d'une session studio du titre Yoga, toujours extrait du même documentaire. Alors, il faut savoir que Björk a composé une grande partie des arrangements de cordes en les jouant d'abord sur un clavier Casio. Pour le reste, la chanteuse a enrôlé le grand Eomir Deodato, qui est un peu le Michel Legrand brésilien, là encore quelqu'un qu'elle connaît déjà. Eomir Deodato, c'est un grand monsieur de la musique orchestrée qui a notamment travaillé avec Antonio Carlos Jobim ou encore Frank Sinatra, avant de devenir un gros producteur de musique disco dans les années 70. Vous le connaissez sans doute pour sa version funky de « Ainsi parlait Zarathoustra ». Vous connaissiez ?
Non, je ne l'ai pas.
D'accord.
C'est bien funky, mais Nietzsche se retourne quand même dans sa tombe.
Moi, j'étais allé le voir en concert Deodato quand j'étais en Turquie, quand j'étais à Istanbul.
Voilà. Nice.
Le concert ne m'avait pas plus marqué que ça.
D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, sur Homogénique, Eomir Deodato va notamment composer les cordes du morceau d'ouverture, Hunter, une sorte de boléro électro avec son rythme militaire et ses violons tragiques, sans doute l'influence du soleil espagnol.
I thought I could organize freedom.
Et parmi les autres titres marquants de l'album, on peut citer Bachelorette, écrit à l'origine pour la BO d'un film de Bertolucci, Yoga, quasiment un hymne national dédié à la puissance des éléments, ou encore Unravel, titre dans lequel Björk utilise un parler chanté typique des chœurs islandais.
Alors au final, Homogénique, c'est un album qui est très riche musicalement et qui est aussi plein de contradictions.
Oui, contradictoire comme l'Islande explique souvent Björk, pays à la nature indomptée avec ses volcans et ses tremblements de terre, et en même temps, pays ultra-moderne qui à l'époque, en cette fin des années 90, possédait le plus grand nombre d'ordinateurs par habitant. Et c'est vrai qu'Homogénique est construit sur des forces contraires, opposition entre son acoustique et électronique, entre rythme abstrait et mélodie organique, entre pop et musique expérimentale. C'est un album composite, baroque, sophistiqué et en même temps accessible, qui restera sans doute comme l'un des très grands moments musicaux de cette décennie 90, au même titre qu'OK Computer de Radiohead, sorti la même année.
Ouais, ça c'est marrant ça, la comparaison entre les deux. Alors c'est l'histoire aussi d'un artwork qui est unique. On va maintenant aborder son univers visuel avec toi, Fanny. Vu le personnage, j'imagine que toi t'as dû bien t'éclater.
Ouais, c'est clair que s'attaquer à Björk quand on s'y connaît un petit peu en art visuel, c'est un bon gros kiff. Je crois qu'on peut la placer d'emblée parmi les artistes les plus fascinants, inventifs et visionnaires de ces dernières décennies. Je dirais du niveau d'un David Bowie, évidemment, dans un genre un peu différent. D'ailleurs, Björk, c'est la seule musicienne contemporaine qui a eu une exposition rétrospective sur son travail au MoMA, le musée d'art moderne de New York, sans que la question de la légitimité de cette expo soit même soulevée. Elle trace des ponts avec la mode, avec la photographie, la vidéo, comme personne. Et les arts visuels ne servent pas juste à illustrer la promo d'un album, ils viennent vraiment compléter son propos, ils font partie intégrante de sa proposition artistique. Il faut rappeler aussi qu'en habitant à Londres, elle a été au contact d'une des générations d'artistes les plus dingues et talentueux du moment.
C'est clair, et on peut dire que chaque collaboration qu'elle va faire avec ses artistes, c'est une sorte d'émulation où chacun va faire ressortir le meilleur de l'autre.
Oui, exactement. Alors revenons sur la genèse de la pochette d'Homogénique, par exemple. On est en février 1997. Björk est en train de lire un magazine de mode assez pointu qui s'appelle Visionnaire et dont la DA a été confiée au créateur de la marque Comme des Garçons. Dans ce magazine, elle tombe sur un portrait du mannequin Devon Aoki, immortalisé par l'excellent photographe anglais Nick Knight, dans une tenue d'Alexander McQueen. C'est le coup de foudre, c'est exactement ce qu'elle recherche pour son album. Du coup, elle fait appel à eux deux, comme l'explique McQueen dans une interview.
Elle m'a appelé et m'a décrit la tonalité générale de l'album. Elle a dit que c'était une période bleue dans sa vie, en référence aux événements traumatiques de l'année passée, mais aussi aux œuvres mélancoliques et humanistes de Picasso dans sa période bleue. Picasso est né à Malaga, pas très loin d'El Cortijo, où Björk a enregistré l'album. Elle voulait une image qui reflète la manière dont elle puise son inspiration dans plein d'endroits, plein de pays différents, tout en restant elle-même.
Alors, dans le documentaire Inside Björk de la BBC, la chanteuse explique qu'à chaque opus, il y a un personnage principal qui vient.
Opus.
On dit ah, ok.
Ah, tu pensais qu'on disait opus.
Ouais,
ah, bah c'est bien, on t'a sauvé du ridicule la prochaine fois que tu le diras.
Mais elle dit à nu.
Je vais dire album en fait.
Opus, ça va, hein, c'est cool.
Okay.
C'est juste, on prononce le S.
Ok. Dans le documentaire Inside Björk de la BBC, la chanteuse explique qu'à chaque opus, il y a un personnage principal qui vient incarner l'album, tandis que les chansons sont comme des petits personnages, des petites histoires secondaires. Pour l'album Debut, par exemple, le personnage c'est une jeune fille novice, polie et timide. Pour Post, c'est une fille de la campagne qui est consumée par sa vie en ville. Et le personnage sur la pochette de l'album Homogénique, c'est une vision fantasmée de la citoyenne cosmopolite que Björk est devenue au fil de ses voyages, du contraste que ça représente d'être vue comme l'Islandaise de service dès qu'elle quitte son pays, versus l'icône internationale dès qu'elle revient chez elle. C'est aussi une figure de guerrière, pour reprendre les thèmes de Björk, une guerrière qui se bat non pas avec des armes, mais avec de l'amour.
Waouh, effectivement, t'as un gros concept, hein.
Et pour symboliser ce melting pot, Nick Knight et Alexander McQueen vont aller piocher dans différentes cultures. McQueen crée sur mesure une impressionnante robe kimono en soie. Lors du shooting, on affuble Björk d'une coiffure d'inspiration coréenne, d'une manucure argentée américaine, de lentilles de contact robotique, d'un maquillage de geisha et d'un collier à spirale de cuivre inspiré de la culture Padang, les femmes girafes de Birmanie.
Moi, j'ai lu que d'ailleurs Björk disait qu'elle pouvait plus du tout bouger pendant le shooting. Elle était complètement bloquée dans son costume. Et elle dit qu'elle a essayé de projeter tout son amour de guerrière à travers son regard.
Ouais. Alors, je sais pas si c'est super réussi. Hein. J'ai jamais vu une guerrière sur cette pochette. Moi, plus une mutante chelou qui ressemble vaguement à la reine Amidala de Star Wars.
C'est exactement ça, ouais.
L'image finale a un côté très froid, très bleu. Et je pense que ça correspond parfaitement à ce que Björk avait en tête au départ.
C'est vrai qu'elle est assez forte, hein, cette pochette. Moi, comme je ne connaissais pas son vrai visage, j'ai été fasciné par cette pochette. Je me disais, mais c'est quoi? C'est elle? C'est pas elle? C'est quoi? C'est de la 3D? C'est quelqu'un d'autre? C'est hyper étonnant, quoi.
Moi, on m'avait même assuré qu'elle était japonaise, Björk, à un moment. Alors, parce que...
bah, entre le kimono bah, et ouais. le maquillage bah, oui, de geisha, c'est... effectivement, c'est un peu trompeur.
Débrouille-toi avec ça, quoi. Alors, tu parlais tout à l'heure d'Alexander McQueen. Si je ne me trompe pas, c'est lui encore qu'on va retrouver sur des clips, non?
Ouais, alors aussi étonnant que ça puisse paraître, pour ses clips, Björk fait aussi bien appel à des méga pointures du genre comme Spike Jonze ou Michel Gondry qu'à des graphistes, des photographes et des designers de mode dont c'est pas du tout la spécialité. Pour l'album Homogenic, on a 5 singles accompagnés de 5 vidéos. Faut absolument les voir car c'est toutes des merveilles. La vidéo de Yoga et Bachelorette, on en a parlé vite fait tout à l'heure, elles ont été réalisées par Gondry. Celle de Hunter par Paul White. Celle d'Alarm Call donc par Alexander McQueen qui est designer de mode. Et celle dont j'ai envie de vous parler un peu plus longuement aujourd'hui, c'est All is Full of Love, qui est signée Chris Cunningham. Chris Cunningham, c'est un vidéaste plasticien spécialisé dans les effets spéciaux qui a travaillé par exemple sur les films de la franchise Alien ou sur AI de Spielberg. En 1995, en parallèle à son boulot dans le cinéma, il décide de réaliser des clips et va bosser pour Portishead, Placebo, Aphex Twin aussi beaucoup, et Frozen, le seul clip et la seule chanson valable de Madonna, et bien c'est lui aussi.
Non, t'es dur, arrête, il y a plein de super morceaux de Madonna.
Je suis dur, mais
quoi.
C'est le meilleur clip de Madonna quand même. Alors, dès que Björk a terminé le morceau All is Full of Love, elle a su qu'elle voulait le faire mettre en image par Cunningham, que ça se prêterait à son univers. Elle l'a pitché sur son intention artistique en lui disant que la chanson illustrait la rencontre de l'amour et de la luxure dans une sorte de paradis sexuel où tout doit être blanc. Elle lui a donné des petites sculptures érotiques chinoises en ivoire comme base de travail. Et quelques semaines plus tard, comme elle l'explique au Time Magazine, Cunningham lui a envoyé une proposition dans laquelle il pourrait explorer sa propre obsession pour les robots, une sorte de version futuriste du Kama Sutra à laquelle Björk a évidemment adhéré.
Vas-y, continue, tu m'intéresses.
La production du clip en lui-même a été beaucoup plus compliquée et longue que les 3 mois initialement prévus. Au final, il s'est passé quasiment une année durant laquelle Björk a dû défendre bec et ongle la vision de Cunningham pour le protéger de l'impatience de sa maison de disques. Comme le budget n'était pas énorme, des dizaines de stagiaires non payés ont bossé d'arrache-pied sur le projet.
Ah bah bravo.
L'exploitation, quoi.
Super.
Un an quand même pour un clip, quoi.
Ouais, mais... Quand on voit
clip,
le résultat,
ouais,
on
ouais,
comprend.
Ouais, okay.
Alors, le tournage du décor et des scènes avec Björk a eu lieu au studio Bray et Greenford en Angleterre. La post-production a été assurée par le studio Glassworks de Londres. Tout au long, avant de voir le résultat avec les effets spéciaux, Cunningham pensait que la vidéo serait une catastrophe, alors qu'au final, c'est une énorme et troublante réussite. Donc on voit quoi dans ce clip? On voit 2 robots humanoïdes prendre vie dans une salle des machines immaculées où des bras mécaniques sont en train de les assembler. Il y a un processus très organique du liquide laiteux qui coule sur la machinerie. Et puis rapidement, dès que les 2 robots se voient, ils se pécho, ils s'embrassent, ils se caressent. Ça pourrait être un peu kinky, sauf que les 2 robots ont la gueule de Björk. Donc on part directement dans des scénarios chelous, genre... Pourquoi se roule-t-elle des pelles à elle-même? Est-ce une référence au mythe de Narcisse? Est-ce que c'est son fantasme à elle ou celui de Cunningham? Est-ce que les robots ne vont pas finir comme Clo-Clo à s'ébattre au milieu de tout ce... Est-ce qu'ils sont waterproof? Et d'abord, ça ressemble à quoi un orgasme de robot? Tant de questions, si peu de réponses, le Mr. Björk reste entier.
Waouh! Ah non, mais le clip, il est dinguissime, quoi. Puis moi, ce que j'adore, c'est que t'as cette tension, en fait, entre, tu sais, t'as les machines avec des trucs qui sont en train d'être soudés, du feu, et en même temps, t'as du côté électrique, il y a l'eau qui est là, tu dis qu'à tout moment, le truc, il va exploser, tu vois. C'est,
il y a
la vraie tension
charnel,
sexuelle. Ouais.
Et puis l'intégration du visage de Björk, c'est tellement troublant, quoi. C'est hyper bien fait, le clip est dingue.
Ouais. Alors je crois qu'on a bien fait le tour de cet album. C'est le moment maintenant de faire un petit peu le bilan et d'avoir votre avis sur ce que vous avez pensé de Björk en homogénique cette année. Alors on va commencer par toi, Grégoire.
Ah bah tiens, une fois n'est pas coutume, c'est toujours les filles en premier, je comprends pas.
Bah ouais, je suis un mec galant, c'est comme ça.
Écoutez, moi j'ai pris un grand plaisir à, je dirais, plus écouter cet album que le réécouter, parce qu'à vrai dire, je connaissais uniquement les singles. Très franchement, je l'ai trouvé très actuel, très beau. Les arrangements de cordes sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc, ça a été vraiment, vraiment une belle expérience de réécouter cet album. Mais avec Björk, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours dans une relation un petit peu contradictoire. C'est-à-dire, c'est une artiste que je respecte énormément. Quand j'écoute ces morceaux, gros respect, je la trouve vraiment super. Elle se renouvelle en plus à chaque fois sur chaque album. C'est pointu, mais en même temps c'est accessible. Ouais. Bah, elle fait des choses que peu d'artistes arrivent à faire. Et elle est hyper, hyper authentique aussi dans ses attentions. Mais en même temps, je me lasse un petit peu. C'est-à-dire son côté très gueulard, le côté très dégoulinant de sentiments, tu vois, avec les cordes très dramatiques. Mmh. Au bout d'un moment, c'est un peu too much, ouais, c'est un peu trop pour moi.
Trop d'avant-garde, trop de mélange.
Pas l'avant-garde, mais trop lyrique. Mmh. Ouais. Il y a un côté très émotionnel, comme ça, émo, un peu. il y a ce côté très émotionnel qui, au bout d'un moment, me pèse un petit peu et que je trouve un petit peu lassant. Et c'est pour ça que j'ai du mal. Je peux pas dire que Björk, ce soit une artiste que je vais écouter régulièrement. Là, ça m'a fait plaisir de l'écouter ponctuellement pour cet épisode. Mais voilà, c'est pas forcément... Donc, c'est un peu contradictoire. Voilà, je navigue entre deux eaux avec Björk. Je l'aime beaucoup. Et puis, en même temps, j'ai du mal à l'accompagner sur tout un album et à réécouter très régulièrement parce que c'est presque fatigant, en fait. Mmh.
Ouais. Ouais, non, mais effectivement, voilà. je comprends. Toi, Olivia,
moi, c'est l'exact inverse, en fait.
C'est vrai.
Tout ce qu'a dit Greg, pour moi, c'est exactement l'opposé. C'est un album que je n'ai jamais arrêté d'écouter. Mais vraiment, il fait partie, je dirais pas de mon quotidien, mais c'est très, très, très régulièrement que je l'écoute. Il me plonge dans une espèce d'hypersensibilité à laquelle tu faisais référence au début de l'épisode. Ça me met vraiment dans un état qui est assez rare.
Un état proche de l'Ohio.
Absolument. Et je pense que c'est comme une espèce de caisse de résonance d'une émotion que j'ai besoin de vivre. Si j'ai trop de joie ou trop de tristesse, cet album me permet en fait de me réapproprier.
Ça te vidange.
C'est fou.
Hein. Ouais. C'est très joliment dit, Greg. Je te remercie. Toute cette poésie me bouleverse.
J'aime bien les métaphores automobiles.
Et c'est une personne qui me bouleverse beaucoup, Björk. Elle a elle-même cette hypersensibilité que je trouve assez attachante. Je me souviens que sa dernière tournée, elle l'a arrêtée parce qu'en fait, son dernier album parlait de sa séparation avec son compagnon. Et elle a arrêté sa tournée parce qu'elle disait que c'était trop dur pour elle de chanter cette séparation. Et quand j'ai lu ça dans les journaux, ça m'a vraiment un peu bouleversée. Je me suis dit que ça devait vraiment être difficile. Et voilà, donc je pense que cet album va m'accompagner encore un petit moment. Voilà.
Donc tu lui mets une très bonne note.
Oui, voilà, très bien.
Et toi, Fanny ?
Désolée, Olivia, moi je suis team Greg sur ce coup.
Oh là là, les gros lâches.
Alors, en fait, j'ai exactement les mêmes sentiments très contradictoires. Pourquoi ? Parce qu'au départ, je n'aime pas Björk parce que je ne trouve pas de porte d'entrée. Il y a quelque chose d'hermétique, que ce soit dans sa manière de... Bon, la voix est très particulière, ses expressions et son visage, quand elle chante avec cette bouche énorme, elle hurle. En fait, il y a quelque chose qui est un peu défrayant. Et en même temps, elle a créé des collaborations avec plein d'artistes que moi j'adore. Tu parlais de son compagnon, c'était Matthew Barney, un plasticien anglais de dingue. Elle a bossé avec une créatrice qui s'appelle Iris Van Der Pen. Il y a évidemment McQueen que j'adore.
La liste des collabs, on n'a pas fini.
Il y a plein de choses auxquelles je suis censée être...
Et pourtant,
j'ai du mal. Donc là, j'étais très curieuse en bossant sur cette émission de me dire, peut-être que grâce au boulot qu'on va faire là, je vais enfin... adhérer et enfin comprendre. Ça a un peu marché. J'ai un énorme respect pour son travail et je reconnais totalement la place qu'elle a dans le panthéon mondial de la musique. C'est une artiste mais phénoménale, avec un talent monstrueux, mais c'est pas ma came. C'est la seule chose que je peux dire. Je respecte.
J'aurais pu adorer.
Mais pas pour moi. Voilà.
Et toi, Manu ?
Bah moi j'ai eu beaucoup de fascination pour Björk, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Moi ce que je trouve génial, c'est la capacité à ce qu'elle a d'album en album à réinventer un univers et une histoire. Et cet album, c'est un album que je suis content d'avoir réécouté parce que il m'évoquait plein de souvenirs, il y avait des choses que je trouvais compliquées, qui étaient un petit peu hermétiques encore à l'époque mais qui me fascinaient quand même. Et là en le réécoutant, waouh, je me rends compte du travail qui a été fait et j'adore, tu vois, le morceau Yoga, il me retourne à chaque fois que je l'écoute. Hunter aussi, qui étaient des morceaux dont j'étais pas plus fan que ça au départ, je crois. Et vraiment, là, c'est ceux qui m'accompagnent énormément. Voilà, bon, bref, tout ça pour dire que je suis très fan de cet album et que je vais encore beaucoup l'écouter.
C'est un très, très grand album, je le reconnais, hein, évidemment.
J'ai l'impression qu'il y a deux équipes hein, cette fois-ci.
Ouais.
C'est...
ouais, vous vous gourez, il est génial cet album. Mais
ah non, mais je dis pas le contraire. Hein. J'ai dit que j'avais adoré le réécouter simplement.
Vous n'avez pas
que,
le coup.
Est-ce que je vais écouter Björk très régulièrement à partir de maintenant ? Je crois pas. Je crois pas. On est fatigué là, je crois.
Voilà, tout est dit.
Eh ben super. Eh ben écoutez, je crois que c'est maintenant la fin de cette émission. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album culte des 90s avec le Cassette Crew, avec Fanny, Grégoire et Olivia.
Merci.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et vous pouvez, si vous voulez, nous faire très plaisir en laissant un message sur notre répondeur cassette enregistreur pour donner votre avis sur l'épisode ou tout simplement sur cet album de Björk. Voilà, ça se passe au 07 61 36 84 15. On vous remet le numéro en description. Ne zappez pas parce qu'on va écouter vos derniers messages juste après le dernier titre. On se quitte donc maintenant avec Bachelorette, les petits chats. On vous fait des gros bisous et cœur avec les doigts.
Bye bye,
bye, bye.
Ciao.
À
bientôt.
Salut, c'est Max Oliver, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour l'émission sur les Smash and Things et leur album Melancholy, là, c'est vraiment, c'est super intéressant. Merde, c'est pas encore passé? Je suis dans le futur. Je vous laisse, salut!
Salut la team Radio Cassette, bah, juste un petit message pour vous dire bravo et merci pour tout le travail que vous faites, c'est un super podcast. Et j'en loupe jamais un. Et une spéciale dédicace à Fanny, ma préf, qui manque jamais de me faire rire avec ses vannes super affûtées. Un vrai petit sniper. Continuez comme ça, on vous adore. Bisous, bisous.